Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Jonathan Angelov, bonjour.
Bonjour Quentin.
Alors quelle entreprise vous auriez bien aimé créer comme ça là, si vous, Apple, Microsoft, qu'est-ce qui vous aurait fait rêver?
Je pense comme ça, en y réfléchissant en une seconde, Airbnb, parce que c'est vrai que je suis passionné d'immobilier et la location saisonnière, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, et puis très jeune je m'y suis mis, donc ça aurait été une entreprise que j'aurais bien voulu faire. Malheureusement, il m'a piqué l'idée.
Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Jonathan Angelov qui aurait bien aimé créer Airbnb, qui est entrepreneur mais qui a fondé, néanmoins qui a cofondé Aircall, une pépite française de la French Tech, une licorne, dit-on, ce qui est pas mal non plus. Première question, est-ce que c'est un animal qui vous est sympathique, la licorne? Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou alors pas du tout? Vous êtes peut-être même pas posé la question.
Peut-être au début d'Aircall c'était quelque chose d'inspirant, et c'est vrai que maintenant on voit que finalement avec toutes les valorisations et tous les problèmes qu'il y a dans la tech et la crise qui est en train de taper, finalement la licorne, je pense que c'était un moment d'euphorie que tout le monde a apprécié.
Vous avez le blues de la licorne?
Non, j'ai pas le blues de la licorne, mais on revient sur Terre et on regarde en fait les animaux qui existent maintenant, et la licorne est un animal qui n'existe pas, donc je pense que c'est le moment un petit peu de revenir sur Terre.
Faudrait que la French Tech peut-être bannisse la licorne et choisisse un animal effectivement plus moins hors sol, entre guillemets.
Peut-être, en tout cas.
Vous faites partie des dirigeants néanmoins dont l'activité a été un peu boostée par la crise sanitaire, le travail à distance. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quelle conclusion vous avez tirée, vous, à titre personnel, de cette période un peu étonnante, très étonnante même, et votre société, quoi? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, à la fois en interne et dans votre business model?
Alors, cette crise a quand même été très négative pour l'écosystème, pour toutes les entreprises en général. Même si Aircall, on a l'impression qu'on était un outil qui peut-être était résistant à la crise, en effet, c'était le cas, mais ça nous a néanmoins quand même fait perdre un petit peu de temps, un trimestre environ sur le chiffre d'affaires qu'on aurait voulu faire en 2020, mais on a rattrapé sur la fin d'année 2021 ce temps qui a été un petit peu perdu. Maintenant, ce que ça a fait pour nous, vraiment la crise, c'est que les gens ont pris conscience qu'on était capable de travailler de chez soi, qu'on était aussi capable d'utiliser des outils pour le télétravail, ou même des outils finalement qui ne nécessitent pas de présentiel, et donc des outils qui sont installés sur les ordinateurs à la manière d'Aircall. Et donc finalement, ça nous a boosté, ça nous a aidé aussi à faire comprendre aux entreprises et aux DSI en général qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un poste téléphonique posé sur un bureau pour pouvoir passer des appels.
Est-ce que les DSI des entreprises sont vos principaux interlocuteurs? En gros, la DSI, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle davantage des commerciaux, des marketeurs, etc. Mais la DSI, c'est absolument essentiel dans une entreprise. C'était les héros du quotidien, si vous reprenez une expression qu'on connaît un peu, surtout dans des moments difficiles.
Ça redevient les héros du quotidien. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Historiquement, Aircall, on vendait essentiellement donc au service client, donc au directeur du service client, ou au service commercial, donc au directeur du service commercial, ou que ce soit l'entreprise dans le monde, c'était un petit peu la même chose. Et c'est vrai que depuis la crise sanitaire, le DSI revient au centre du débat et devient même le décideur souvent de la solution, tout en étant finalement, en utilisant les autres acteurs autour d'eux qu'on a cités précédemment, le directeur commercial, le directeur service client, pour comprendre la solution dont l'entreprise a besoin. Mais lui se poste en décideur, et c'est très bien parce que les entreprises ont besoin maintenant d'avoir une DSI solide, notamment avec le télétravail, on en reparle, où tout le monde a son petit logiciel chez soi et son ordinateur et peut faire son travail. Donc il y a des vrais aspects de sécurité qui sont très importants.
C'est ce que j'allais vous dire. J'ai lu une étude il y a quelques jours qui décrit en gros que dans certaines boîtes, les salariés soit sont pas au courant des normes de sécurité, soit sont s'en fiche totalement. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est une DSI d'un grand groupe ou d'une PME ou d'une entreprise plus moyenne pour faire prendre conscience en vérité? Parce qu'aujourd'hui, toutes les datas avec le télétravail, elles sont volatiles. Elles vont dans l'avion, elles vont dans le bus, elles vont dans des bistrots, elles vont dans tous les tiers-lieux de travail. Comment est-ce qu'on parvient à cette... On se tire les cheveux, j'imagine, quand on est à la DSI.
C'est extrêmement compliqué. Et puis, le fait que les salariés sont souvent réticents à la sécurité parce que ça les ennuie.
Le VPN, c'est bon.
Mais c'est ça. Ouais. Le salarié, lui, il a un travail à accomplir et il veut que le travail qu'il accomplit soit le plus facile possible, ce qui est humain. Sauf que la DSI est là pour protéger les données, pour protéger la société et même protéger les salariés. Et souvent, on l'oublie. Et donc, finalement, la DSI, son devoir, c'est de s'assurer que les gens acceptent le changement, parce que souvent, c'est une évolution, acceptent le changement et le comprennent. Je pense que le plus important, c'est de bien comprendre, de former les équipes, d'expliquer ce qui peut arriver et pourquoi on le fait. Ce qui est sûr, c'est que la sécurité, c'est souvent des contraintes. C'est rarement des avantages, en tout cas, dans le travail de tous les jours. Et l'imposer méchamment et bêtement, ce n'est pas la solution. C'est plutôt de former les équipes et de comprendre pourquoi on le fait et que ça peut sauver la société. Et on le voit, beaucoup de sociétés ont tout perdu à cause de ça. –
Jonathan Gueloff, je vous sens un peu sociologue dans l'âme. Est-ce que, si on parle génération, vous diriez que cette sensibilité à la cybersécurité, à ce qu'on vient de décrire, c'est quelque chose qui concerne davantage les profils plus seniors ou alors les jeunes? Est-ce qu'il y a certains jeunes qui s'en fichent totalement? Est-ce que des plus seniors s'en fichent totalement? Comment est-ce que vous... Vous n'êtes pas sociologue, je sais, mais peut-être, j'imagine, avec votre retour d'expérience, vous savez un peu ce qui se passe.
Bien sûr. Non, mais en fait, je pense que dès lors qu'on ne connaît pas, on refuse, ou en tout cas on est contre.
Et ça, c'est pas question de génération. Ça,
ouais,
c'est...
je pense pas que ce soit une question de génération, et je vais même prendre, puisqu'on parle, on parle d'Aircall, ou même je vais me prendre mon exemple personnel. Il y a 5 ans, vous me parliez de sécurité, de devoir installer des outils de sécurité, etc. Il y a 5-7 ans, au début d'Aircall, je vous aurais dit, non mais ça me saoule, ça va pas nous aider, ça va nous ralentir, ça va pas être bon pour la société. Et en fait, il y a une prise de conscience au fur et à mesure du temps, mais parce que je vois l'extérieur, moi je m'informe en tant qu'entrepreneur, mais je vois aussi également ce qui se passe à l'extérieur et les risques que les entreprises encourent, que ce soit des petites entreprises ou des très grosses entreprises. Hein. Pour se faire hacker, il n'y a pas de taille. Facebook s'est fait hacker de multiples fois. Donc, si Facebook se fait hacker, c'est que n'importe quelle société peut se faire hacker, en fait. Et donc, prendre des mesures de sécurité, c'est très important pour protéger la société, donc l'asset de la société, c'est très important, mais également protéger ses individus, ses clients et l'intégralité de chaînes de valeur qui travaillent avec l'entreprise. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une histoire de génération, je pense que c'est plutôt une histoire de formation ou en tout cas de connaissance de ce qui se passe.
– Et de pédagogie.
Exactement.
Évidemment, Jonathan Gueloff, à titre personnel, parce qu'on est là pour parler de vous avant tout, vous êtes très télétravail, plutôt présentiel, comment est-ce que vous… intimement, personnellement, c'est quelque chose que vous faites, le télétravail, ou alors vous êtes au bureau tous les jours?
Alors moi, personnellement, je suis quelqu'un de bureau. J'aime être au bureau, j'y suis tous les jours. Parfois, le vendredi, je m'autorise à ne pas venir au bureau. Mais sinon, moi, personnellement, très, très bureau. Maintenant, ce qui est au sein de la société est très différent. La société, on est très ouvert au télétravail. On a des règles très ouvertes. On fait énormément confiance aux gens. On a aussi beaucoup de personnes qui sont 100% en télétravail, qui ne mettent jamais les pieds au bureau. Et on est très à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, on a créé toute une DSI, justement, tout un système d'outils connectés entre eux, qui permettent aux personnes de pouvoir travailler très facilement de chez eux, de permettre également aux managers de pouvoir suivre l'évolution et les performances de chacun de leurs managers. Donc, en fait, on reste assez ouvert à tout ça. Et je pense que s'il y a bien eu quelque chose de bénéfique à cette crise, c'est probablement l'ouverture d'esprit des entreprises à laisser un petit peu le télétravail rentrer dans les sociétés, là où historiquement, c'était un petit peu plus difficile. Et puis, c'était pareil chez Aircall. Le télétravail n'était pas quelque chose qui existait spécialement avant la crise sanitaire.
Même dans ce business model-là, c'est-à-dire que vous, par essence, en fait, vous devriez être, ça devrait être dans les mœurs de la boîte, si je puis dire. Ouais. Aujourd'hui, on lit des offres d'emploi avec des candidats qui négocient leur arrivée en disant, moi, je veux full télétravail, je veux faire ce que je veux, etc. C'est hallucinant. Il y a trois ans, ce genre de truc n'existait pas.
Ouais, c'est ça. Et nous, historiquement, on était finalement, on parle souvent de start-up, de tech, mais on a toujours été une entreprise.
Et
une entreprise. mais finalement, une entreprise, ça a toujours été des personnes au bureau, des salariés au bureau. Et on a toujours été multi-bureau. Donc très tôt, on a eu un bureau à New York, à Londres, à Berlin. Et donc, on a eu l'habitude de travailler tous ensemble à distance, puisque le bureau de New York est à New York, le bureau de Paris est à Paris. Donc, assez logiquement, on doit tous interagir. Et donc, finalement, l'arrivée du télétravail, l'arrivée de la crise sanitaire n'a pour nous pas changé grand-chose, parce qu'on avait l'habitude de travailler tous ensemble sans se voir. Donc, c'est juste que les gens du bureau de Paris se voyaient moins, du coup. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme si le bureau de Paris devenait multi-satellite, ou le bureau de New York, pareil. Donc, finalement, ça n'a pas été un gros changement en interne, ça a été surtout de l'orga RH pour gérer les onboarding des salariés, pour gérer un petit peu comment s'organise la société. Mais finalement, ça a été assez naturel. Et je pense que c'est une histoire de génération qui nous a aidé un petit peu à le faire.
J'ai pas visité votre bureau, Jonathan Ageloff, mais on m'a dit que c'était une vaste pièce en vitre et que tout le monde pouvait vous voir et que vous pouviez voir tout le monde. Qu'est-ce que ça révèle de votre management et qu'est-ce que ça révèle cet espace finalement, parce que vous l'avez décidé, j'imagine.
Ouais, mais alors ça va encore plus loin que ça. En effet, c'est des grands open space, donc personne n'a de bureau, personne, inclus moi. Je n'ai pas de bureau fermé. Donc moi, je fais mes appels en plein milieu de tout le monde m'entend, on est très transparent. Et c'est pareil aux États-Unis, on a toujours refusé de donner des bureaux individuels, même au management, parce qu'on considère qu'en fait, on est une société transparente et qu'il n'y a pas de nécessité à devoir se fermer dans sa petite bulle. Et ça, c'est un choix personnel. Avec les années, peut-être que ça va évoluer. Et puis, c'est déjà en train d'évoluer parce qu'il y a beaucoup d'appels qui sont confidentiels avec des investisseurs, la direction financière qui a besoin également d'un petit peu de confidentialité. Donc, on y arrive en tout cas, mais on reste une entreprise très transparente avec un système hyper visible.
Dans un très joli portrait de vous qui a été publié dans le Figaro, justement, vous confiez, Jonathan Ageloff, que vous êtes sans cesse hanté par l'idée de tout perdre. C'est-à-dire tout perdre quoi, votre entreprise, votre argent, tout ce que vous avez conçu. Et comment est-ce que vous expliquez cette tout le monde-là, j'imagine, ressent cette peur, mais peut-être vous plus que les autres, je ne sais pas, décrivez-moi cette...
Ça revient à mon enfance, et puis l'article que Elsa Bambaron avait écrit à l'époque m'avait énormément touché, parce qu'il n'était pas du tout préparé, et ça a été une discussion avec elle qui a amené à cet article, et ça revient à mon enfance en fait, où ma maman il m'a éduqué à peu près jusqu'à mes 12-13 ans, et du jour au lendemain elle a tout perdu, jusqu'à mes 12 ans, elle a tout perdu, elle s'est fait escroquer, et puis après ça a été la descente aux enfers, et moi je me suis retrouvé placé en famille d'accueil à 12 ans, j'avais grandi à Paris dans le 15e, éducation dans le 16e, donc plutôt une éducation assez bourgeoise, et du jour au lendemain me retrouver dans une cité HLM, dans une ZEP, en banlieue, et donc ayant tout perdu avec une maman qui n'a plus rien et qui doit louer les chambres, les deux autres chambres qu'elle avait dans l'appartement à des étudiants ou à des personnes pour pouvoir, elle, subvenir à des besoins. Donc il y a cette impression qu'on peut tout perdre du jour au lendemain en faisant une erreur, et c'est vrai, et c'est une vraie réalité, qu'on peut souvent tout perdre, il suffit d'une bêtise parfois, la mauvaise bêtise, et donc je garde ça au fond de moi. Et alors on dit souvent ça te hante, mais moi ça me hante pas, ça me donne surtout de la force, ça me donne de la rigueur, ça me pousse à toujours me dépasser et à toujours donner plus pour éviter de me retrouver dans cette situation.
Jonathan Ageloff, entrepreneur prudent, du coup, j'imagine.
Oui,
merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci, Quentin.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.